Bonsoir. 250 millions de masques ont été commandés. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, promet au personnel de santé la fin prochaine des pénuries. D'autant plus que les entreprises se sont également mobilisées, notamment LVMH, qui annonce une première livraison de 10 millions de masques venus de Chine dès mercredi. En attendant, le confinement, bien sûr, reste de rigueur. Les contrôles ont été renforcés pour ce premier week-end des Français sans sortie. De nombreuses villes du Sud annoncent la mise en place dès ce soir d'un couvre-feu. À l'étranger, l'épidémie connaît une nouvelle accélération. En Italie, où 793 morts supplémentaires ont été comptabilisés ces dernières 24 heures, plus de 300 en Espagne. Dans ce contexte, les JO de Tokyo sont ce soir plus menacés que jamais. Les fédérations américaines d'athlétisme et de natation demandent leur report. L'épidémie de Covid-19, on y revient bien sûr également dans le téléphone sonne qui continue juste après ce journal. Et puis dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la bonne nouvelle de la journée, la libération du chercheur français Roland Marshall, détenu depuis plus de 9 mois en Iran. Il a été admis ce soir à l'hôpital militaire de Saint-Mandé.
France Inter.
La situation va continuer à s'aggraver, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui le dit. Il ne sait pas combien de temps le confinement durera, mais avant que ses effets ne fassent leurs preuves, il faudra, dit-il, se montrer très patient et solidaire. En attendant, les questions sont légitimes, questions notamment sur la façon dont le gouvernement fait respecter le confinement, on va y revenir. C'est surtout la pénurie des moyens de protection qui ce soir encore fait débat. 250 millions de masques ont été commandés, précise Olivier Véran. Ils seront livrés progressivement aux personnel de santé, Daniel Messager.
C'est le sujet qui fâche. Le ministre de la Santé se devait de faire un point clair et des annonces fortes. 250 millions de masques ont donc été commandés qui vont être distribués au cours des prochaines semaines. Le choix a été fait de fournir d'abord les professionnels de santé qui sont face aux malades. Les régions les plus exposées, Grand Est, Île-de-France, Franche-Comté, Occitanie, on prévoit une consommation de 24 millions de masques par semaine. Les EHPAD vont également devenir prioritaires alors que l'épidémie commence à les gagner. Les médecins de ville, 18 masques par semaine seront attribués à chaque médecin. La Confédération des syndicats de médecins dit déjà que ça risque de ne pas suffire. Et qu'en est-il des personnes qui arrivent à leur cabinet manifestement déjà contaminées ? Apparemment, rien n'est prévu à ce stade. Pharmaciens, kinés, sages-femmes, aides à domicile en recevront aussi, par exemple, 6 par semaine pour un kiné. Des distributions de masques qui restent ciblées. Le Conseil scientifique d'experts se réunira toutefois mardi prochain pour envisager toute répartition et extension. Mais Olivier Véran l'a rappelé, on n'a pas besoin d'un masque pour aller faire ses courses.
En ce qui concerne les tests, autre polémique, le professeur Delfraissy expliquait à 13h qu'il faudrait sans doute les généraliser à la fin de l'épidémie, ce que le ministre a confirmé. En attendant, les tests restent réservés aux personnes les plus à risque. C'est un choix stratégique, explique Olivier Véran. Alors ces annonces du ministre suffiront-elles à rassurer les professionnels de santé qui ont alerté depuis le début de l'épidémie sur le manque de masques ? On ne croit que ce que l'on voit, répond ce soir Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmier. Il est au téléphone de Sandy Dauphin.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va réellement arriver sur le terrain. Pour l'instant, ce que l'on a constaté jusqu'à présent, c'est un décalage entre les annonces et l'arrivée réelle sur le terrain. Aujourd'hui, un soignant qui prend son service dans un CHU a droit à 2 masques pour la journée, sachant qu'un masque chirurgical, au bout de 4 heures, lorsque vous êtes à l'hôpital, il n'est plus utile. Donc il y a un vrai souci. Et dans les hôpitaux non CHU, c'est souvent un seul masque pour les 8 heures de présence. Donc la réalité du terrain, c'est qu'on manque de masques et de matériel de protection partout. Il y a quand même un doute parce que jusqu'à présent, toutes les annonces n'ont pas vraiment été suivies d'effet.
Ce qui est sûr, c'est que des masques arriveront dès mercredi de Chine, commandés par le groupe LVMH. Le ministre de la Santé a d'ailleurs remercié tout à l'heure les entreprises qui ont annoncé faire don de masques, soit qu'elles n'en ont plus l'utilité, soit qu'elles les ont spécialement commandés. Et c'est donc le cas d'LVMH qui dit avoir trouvé un industriel chinois capable de livrer 10 millions de masques dans les prochains jours. Marc-Antoine Jamais, le secrétaire général du groupe, au téléphone de Sonia Princey.
On s'est appuyé sur un réseau qui est celui de LVMH en Chine, qui nous a permis, avec des acheteurs du secteur ou de la section parfums et cosmétiques, de trouver un fournisseur qui soit fiable. Et ensuite, ça a été une course contre la montre. Il a fallu que dans la journée d'hier, nous trouvions les masques, nous les fassions homologuer. Là, ça a été évidemment une coopération, un partenariat très fort avec l'Élysée, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, le ministère des Comptes Publics, parce que il y a parfois des problèmes de douane, de droits à payer, et il fallait les passer en franchise pour aller plus vite. Cela représente 50 millions de masques, ce sont 10 millions de masques par semaine. C'est-à-dire que pour amorcer la pompe, pour faire en sorte que ces masques puissent être libérés auprès du fournisseur chinois, qu'il ne les confie pas à un autre client, Bernard Arnault a mis 6 millions d'euros sur la table tout de suite, en disant que nous les réservions. Ensuite, nous allons faire l'avance à l'État, et nous regarderons ensuite, quand les choses seront devenues plus calmes, comment faire, mais nous allons faire l'avance de la gestion, l'avance du paiement, l'avance de la livraison, l'avance de l'acheminement, avec ensuite un pont aérien pour lequel nous avons trouvé des partenaires qui va ramener chaque jour environ 1,8 million de masques.
Voilà, LVMH qui avait déjà annoncé la mobilisation de certains de ses sites pour fabriquer du gel hydroalcoolique.
19h06, c'est le journal d'Yves Decamp.
Avec ou sans masque, les Français ont été invités à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, les fameux gestes barrières indispensables qui ont du mal à être intégrés. Mais depuis ce matin, apparemment, c'est chose faite. La prise de conscience a fait son chemin, bien aidée, c'est vrai, par la peur du gendarme. Plus de 40 000 verbalisations ont été comptabilisées par le ministère de l'Intérieur en 4 jours, de mardi à vendredi. Et les contrôles ont normalement été renforcés pour ce premier week-end de confinement, ce qui n'est pas forcément évident à Lyon. Christophe Vincent.
Très présente hier, la police s'est faite plus discrète aujourd'hui.
J'ai imprimé l'attestation que j'ai gardée sur moi, mais il n'y a aucun contrôle.
Pas vu de police pour l'instant, ouais. Ah, ça m'étonne parce qu'il y a beaucoup de monde en ville et c'est vrai que le but c'est le confinement. On fait des courses par nécessité, mais sinon on reste chez nous, on est isolé. Hein. Moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui se croient en vacances, c'est tout. Hein. On respecte pas trop ce qu'on nous dit.
En gare de Lyon-Perrache, quasi déserte, la police fait des rondes. Amine et Clara ont été contrôlés.
Je suis sans domicile fixe, je l'explique mon cas. On dit voilà, fais attention à vous, faut pas fréquenter trop de gens, fais attention au niveau d'hygiène, et c'était sympa.
Moi j'ai dit que j'allais chercher mon vélo pour aller au travail demain matin, et tout simplement.
Voilà. Vous aviez une attestation?
Non, j'en avais pas. Ils m'ont demandé mon adresse et de pas traîner, et d'aller chercher mon vélo et de repartir.
Pas d'amende?
Non.
Les berges du Rhône et de la Saône sont interdites. Serge, handicapé, vit mal ces restrictions.
Vraiment, ça prend le chou, quoi. J'habite dans un studio, je déprime. Les commerces de proximité sont dévalisés. Je vis ma vie comme je veux. J'ai envie d'aller me promener, je vais au bord de l'eau. Comme j'ai dit à mon infirmière hier, on meurt qu'une fois. Elle était décomposée.
Serge n'est pas le seul à réagir ainsi après seulement 5 jours de confinement. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Dans ce contexte de restrictions, beaucoup de villes ont décidé d'imposer dès ce soir un couvre-feu pour éviter les regroupements intempestifs en fin de soirée. C'est le cas principalement dans le sud, à Nice, Perpignan, Valoris ou Béziers. Béziers où le maire Robert Ménard, qui vient d'être réélu, dit vouloir protéger la population d'elle-même. Il a dit pourquoi à Élodie Forêt.
Parce que c'est le bon sens même, parce qu'on va y arriver, parce que c'est une évidence. Le couvre-feu le soir est une évidence aujourd'hui. Si on veut, comme le gouvernement a raison de le dire, faire que cette période de confinement soit la plus courte possible, il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui la respectent. Et comme il y a un certain nombre de gens qui s'évertuent à ne pas respecter ces règles du jeu, qui sont les règles du jeu qui s'imposent à tout le monde, on prend une mesure coercitive. On a besoin aujourd'hui que les gens respectent massivement les règles qu'on s'est tous imposées pour pouvoir sortir le plus vite possible de cette période, qui est compliquée. Aujourd'hui, on ne peut pas baisser les bras en disant « tant pis, il y a des gens qui ne veulent pas, eux, se mettre aux normes qui sont celles de tout le monde, on ne peut rien faire ». Non, moi je ne suis pas de ceux qui baissent les bras et cet arrêté, il va dans ce sens-là.
Voilà, couvre-feu à Béziers de 22h à 5h du matin. À Nice, c'est à partir de 23h, à Perpignan dès 20h. Reste à savoir combien de temps pourrait durer l'état d'urgence sanitaire qui doit être décrété jusqu'à fin mars et qui probablement devra être prolongé. Rien n'est encore décidé. Dans le projet de loi en discussion à l'Assemblée, le gouvernement voudrait pouvoir en fixer librement la durée, ce que conteste l'opposition pour laquelle il faut en passer par le Parlement. Maxence Lambrecq.
Dans cette crise, le gouvernement doit-il avoir les mains libres pendant un mois et non 12 jours, comme le prévoit l'état d'urgence classique? Réponse négative du député insoumis Alexis Corbière.
Il y a 12 jours, la situation du pays était totalement différente. Votre discours comme gouvernement était totalement différent. Et d'ici 12 jours, ce sera sans doute différent. Donc franchement, c'est à nous tous de pouvoir apprécier la situation. Un mois, c'est un autre monde. 12 jours, cela permet véritablement que tous ensemble, nous puissions vérifier la pertinence des mesures qui doivent être prises. Merci.
C'est le Conseil d'État qui a demandé de laisser du temps au gouvernement et le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, le comprend.
Nous ne pourrons pas légiférer à la vitesse de propagation du virus.
Il soutient le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Une heure dans une crise épidémique, c'est une heure de trop que nous ne pouvons pas perdre. Et instaurer un système rigide de contrôle et d'évaluation, c'est nous faire perdre, je le dis, du temps.
Avoir du temps et avoir le maximum de liberté, le Premier ministre insiste.
Il sera peut-être délicat de revenir devant le Parlement en urgence à chaque fois qu'il manquerait un outil. Le texte adopté par le Sénat ne nous permettrait pas d'interdire les déplacements à des fins professionnelles. De même, il ne nous permettrait pas de fermer tous les établissements recevant du public.
De nouvelles mesures que le gouvernement veut éventuellement déclencher sans attendre l'aval du Parlement.
Maxence Lambrec. L'armée à la rescousse du Grand Est. Un deuxième avion militaire médicalisé a procédé ce matin au transfert de 6 malades vers Bordeaux. Bordeaux où la situation est beaucoup moins tendue qu'en Alsace. Un premier vol avait évacué dans la semaine 6 patients de Mulhouse et Colmar vers le Sud-Est. Au même moment, l'installation d'un hôpital militaire de campagne a commencé à Mulhouse. Alors le pic épidémique arrive, on l'a dit. Les hôpitaux sont sur le pied de guerre, mais ils ne sont pas les seuls. Les médecins de ville et les pharmacies sont aussi plus sollicités que jamais. Les pharmacies, notamment débordées par les demandes de masques, de gel hydroalcoolique et de paracétamol, sans pouvoir toujours fournir, s'agissant des masques notamment. Quoi qu'il en soit, elles s'organisent, comme ici, dans le centre-ville de Bourges, où tout a été fait pour éviter les contacts avec les clients. Reportage de Thibault Lefebvre.
Alexandra vient de rentrer dans la pharmacie. Pas question d'approcher du comptoir.
Bonjour madame, je vais vous demander d'approcher jusqu'au plot.
La cliente doit rester au niveau d'un marquage au sol bien visible, situé à un peu plus d'un mètre d'un réceptacle en plastique. C'est là que se font les échanges de médicaments, d'ordonnances et de moyens de paiement.
Ça me paraît normal, parce que je le comprends dans le contexte actuel que les pharmacies sont les... entre guillemets, comme les hôpitaux reçoivent des personnes qui peuvent être malades, donc je le comprends.
Et ce n'est pas tout, les personnels de la pharmacie portent des gants et des masques. Deux équipes de 4 personnes travaillent alternativement pour limiter les risques de contagion. Et bientôt, le comptoir sera complètement isolé de la clientèle. Alain Costa est le gérant de la pharmacie.
J'ai commandé, je devrais recevoir la semaine prochaine, des systèmes de protection en plexiglas. Avec un espace aménagé en dessous, comme dans les banques anciennement quand on passait l'argent. Nous avons des personnes qui viennent tous les jours qui sont malades. Et donc, on applique les mesures de protection les plus strictes possibles. Après, je ne sais pas ce qu'on pourra faire de plus.
Alain Costa a une cousine pharmacienne en Italie. C'est elle qui l'a aidé à imaginer et mettre en place tous ces dispositifs.
Thibault Lefebvre à Bourges. À l'étranger, situation toujours aussi difficile en Italie où les rues sont plus désertes que jamais. Et malgré tout, c'est un nouveau record de décès qui vient d'être enregistré ces dernières 24 heures avec 793 morts supplémentaires. Ce qui porte le bilan de l'épidémie un mois tout juste après son apparition dans le pays à plus de 4800 morts. En Espagne, le bilan s'est également douloureusement aggravé avec plus de 300 morts supplémentaires. Aux États-Unis, les trois plus grandes villes, New York, Los Angeles et Chicago, se sont mises complètement à l'arrêt. Ce soir, 1 milliard de personnes sont confinées dans le monde. Et pendant ce temps, 130 000 Français sont toujours bloqués à l'étranger par l'annulation des vols à destination de la France. Le ministère des Affaires étrangères a promis qu'ils seraient tous rapatriés, ce qui va prendre un peu de temps. Ce temps qui leur paraît de plus en plus long, comme ici, pour ce touriste français bloqué à Tenerife, aux Canaries.
On est dans l'aéroport, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus de restaurant, on ne peut pas se laver, on n'a rien. Donc c'est une situation absolument incroyable et indigne de la France. On n'a pas de masque, on n'a pas de gel. Toutes les autres nationalités sont aidées par leur gouvernement et la France. Mais alors, rien du tout, rien du tout. On a appelé le ministère qui nous a dit on peut rien faire pour vous, on pouvait plus joindre le tour opérateur, on pouvait pas joindre la société d'assurance, on n'avait aucun contact. Et le peu de contact qu'on a eu, mais après des dizaines et des dizaines de tentatives, ils nous disaient de nous démerder, quoi. Il y a des gens qui craquent, hein, il y en a des gens qui pleurent, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce qu'on va faire, il y a des vieilles personnes qui disent mais moi j'ai des traitements à prendre. J'ai plus de traitement, comment je vais faire? C'est la catastrophe, quoi. Alors que ça peut être réglé très rapidement, quoi. Je comprends pas. C'est honteux.
Voilà un touriste français en colère au téléphone de Boris Loumagne. À la rubrique sport, habituellement fournie le week-end, ce soir, il reste une question. Les JO pourront-ils vraiment se tenir à Tokyo dans 4 mois? L'attentisme affiché par le CIO est de plus en plus contesté. Ce jour, les fédérations américaines d'athlétisme et de natation, notamment deux disciplines de base des JO, demandent le report des Jeux dans l'intérêt des athlètes. À Maya Cazenave.
Pour Thomas Barr, le président du CIO, c'est très clair. Décider d'un report aujourd'hui à 4 mois des Jeux serait tout à fait prématuré, mais ces dernières heures, plusieurs fédérations et comités olympiques n'ont pas hésité à le désavouer. Aux États-Unis, les très puissantes fédérations d'athlétisme et de natation plaident officiellement pour un report des JO. Elles parlent du stress, de l'anxiété des sportifs face à cette situation inédite et demandent à ce que leur santé mentale et leur bien-être soient des priorités. Au Canada, même son de cloche, de nombreux athlètes ont signé un texte commun. En Europe, les comités olympiques espagnols et norvégiens, premiers à s'exprimer officiellement, ont également exigé que ces Jeux soient reprogrammés. Enfin, en France, la Fédération française de natation est montée en première ligne pour réclamer le report au nom de l'urgence sanitaire et de l'équité sportive. La posture du CIO semble de plus en plus difficilement tenable. Sa prochaine réunion, prévue mardi prochain, s'annonce particulièrement tendue.
À ce jour, seules les deux guerres mondiales ont eu raison dans l'histoire des JO en 1916, 1940 et 1944.
France Inter.
De retour en France, après 9 mois et demi de détention en Iran, le chercheur Roland Marchal a donc été libéré ce matin, aussitôt rapatrié à Paris et amené à l'hôpital militaire de Saint-Mandé. On se doute qu'il devra être testé au coronavirus. On connaît la situation en Iran. Roland Marchal, accusé d'avoir attenté à la sûreté nationale, avait été arrêté à l'aéroport de Téhéran en compagnie de l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelra, qui, elle, n'a pas été libérée. Lui aurait fait l'objet d'un échange de prisonniers avec la France que Paris n'a pas confirmé, Bertrand Gallier.
Rien n'a filtré des négociations avec l'aile la plus dure du régime iranien, les gardiens de la révolution, sous l'égide du guide suprême. Un premier résultat est donc obtenu avec cette libération de Roland Marchal, rentré très discrètement aujourd'hui à Paris. Richard Banegas, l'un de ses collègues de Sciences Po, a eu des nouvelles rassurantes.
Il va bien, il est évidemment très fatigué, dans un état physique, comme on peut l'imaginer, après 9 mois de prison. Il a été admis effectivement à l'hôpital de Saint-Mandé pour sans doute un check-up complet, sachant l'importance aussi de l'épidémie de coronavirus en Iran, sachant aussi combien elle a touché le milieu carcéral, qui a poussé d'ailleurs les autorités iraniennes, vous le savez, à libérer des milliers de prisonniers ces 2 dernières semaines.
Car le régime iranien tente d'influencer les Occidentaux pour obtenir un allègement des sanctions à la faveur de l'épidémie de coronavirus, qui aggrave la situation économique désastreuse du pays. C'est le contexte de cet échange entre le chercheur français Roland Marchal et l'ingénieur Rohola Nejad, qui était détenu en France. Les États-Unis réclamaient l'extradition de ce ressortissant iranien en l'accusant d'avoir tenté de faire entrer en Iran du matériel violant les sanctions américaines. Un échange de prisonniers revendiqué par Téhéran et sur lequel Paris reste muet.
Et ce soir, le comité de soutien aux deux ingénieurs se dit à moitié soulagé et dit bien sûr continuer le combat pour la libération de Fariba Adelra, dont l'état de santé suscite de grandes inquiétudes. En bref, la mort de Pierre Truche, grande figure de la magistrature. Il était le procureur général du procès de Klaus Barbie en 87. Il fut aussi procureur général près la Cour de cassation qu'il a présidée de 96 à 99 ans. Pierre Truche avait 90 ans. Allez, retour sur la France au temps du coronavirus. Après 5 jours de confinement, c'est une vie nouvelle qui s'organise, parfois difficilement. Attention à ne pas se laisser aller, ça ne doit pas être open bar avec le frigo, comme l'a dit aujourd'hui un général, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale et qui nous conseille d'appliquer à la maison des règles militaires pour mieux vivre ce confinement. Quelques conseils très simples selon lui, ne pas rester dans son lit à traîner, ne pas jouer avec la zapette et grignoter des pizzas. Il faut avoir une activité physique, faire la cuisine et prendre du temps pour la lecture. Ce qui tombe bien, Christine Siméone, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Jamais votre rendez-vous du samedi soir n'a si bien porté son nom, jamais la vie n'aura été aussi connectée pour la lecture notamment.
On connaissait déjà les plateformes de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, les Wikisources qui permettent de lire des ouvrages de littérature classique en ligne, souvent sous forme de PDF. Mais cette semaine, certains éditeurs ou auteurs même ont choisi de faire carrément des cadeau. Et je vais commencer par les bandes dessinées. Chez Dargo, par exemple, on a offert la possibilité de feuilleter 10 bandes dessinées, des titres comme Boulet Bill, par exemple, Picobog, ou bien un 13 de Jean Van Hamme. En 48 heures, Boulet Bill a été feuilleté plus de 3000 fois, comme l'explique Marie Parisot, la directrice marketing chez Dargo.
Donc c'est vraiment énorme pour ce qui se passe sur un site d'éditeur de façon traditionnelle. Et on sait qu'il y a beaucoup de familles qui cherchent de quoi occuper les enfants en ce moment. Donc de façon assez naturelle, Boulet Bill est l'album le plus lu pour le moment sur cet outil de feuilletage offert. Pour le moment, effectivement, le périmètre reste cadré sur ces 10 bandes dessinées et puis celles qui vont être rajoutées à l'initiative des auteurs. En revanche, tout notre catalogue est disponible sur Isneo en numérique et Isneo est sur le point de lancer de son côté un mois d'abonnement offert, donc avec accès à toutes les bandes dessinées numériques, qui fait un très bon complément à ce que nous, on a initié ce début de semaine.
Voilà, il y en a pour tous, les plus jeunes et les plus grands, avec aussi un Black & Mortimer à disposition. Autre conseil encore pour les ados?
Les adolescents vont pouvoir régulièrement télécharger des livres des éditions Rajo, qui mettent à disposition quelques titres phares de leur catalogue. Tous les deux jours, pendant une heure, ils libèrent comme ça un livre que l'on peut télécharger. Je vous ai mis des références sur le site de France Inter. Plus singulière encore est l'initiative de Vincent Villeminot, qui est un auteur jeunesse publié chez PKJ. Il a récupéré un début de manuscrit commencé sur l'île d'Aix lors d'une résidence d'écriture. Et il s'est proposé de continuer cette histoire. Tous les jours à 18h, Vincent Villeminot livrera un chapitre. Écoutez-le.
C'est 8 gamins qui sont sur une île. Et puis, un matin, alors qu'ils se rendent sur le port pour prendre le bateau, comme tous les matins pour aller au collège, il n'y a pas de bateau. On leur annonce que c'est coupé. Et ils vont se retrouver confinés et ils vont découvrir petit à petit l'ampleur de la catastrophe et du confinement. J'avais écrit une vingtaine de chapitres. Là, j'en ai jeté 5 ou 6 à la poubelle parce que simplement ça se prêtait pas au rythme du feuilleton et qu'il va falloir réécrire entièrement l'histoire pour qu'on ait une fin chaque soir qui donne envie de se retrouver le lendemain. Voilà.
Sur franceinter.fr, je vous laisserai de nombreuses autres pistes, des nouvelles aux éditions Zulma par exemple, des essais à lire grâce aux éditions de La Découverte. Si jamais il vous reste un peu de temps pour lire, eh bien, même sans librairie, c'est possible.
Christine Siméon, Ma vie connectée et confinée, à retrouver donc sur franceinter.fr.